Arracher la santé aux spécialistes, arracher le soin aux experts, à l'industrie pharmaceutique et aux institutions médicales. S'en sortir ensemble, finalement, c'est un peu le point de départ de ce qu'on appelle la santé communautaire. Mais est-ce suffisant ? Prendre soin autrement, prendre soin pour faire face, peut-être, comme dirait l'autre, au système de santé et à la santé du système. Aujourd'hui, au Saint-Sauveur, on parle santé mentale et émancipation. Ça commence tout de suite.
Au fil des luttes.
Radio Parleur.
Le son de toutes les luttes.
Avec nous ce soir autour de la table déjà Sophie du Saint-Sauveur et puis Sophia, Biquette, Fatia et Capucine du collectif Démocratie et Joseph Raphaël Iora, psychologue et auteur de l'ouvrage En finir avec le capitalisme thérapeutique, réédité récemment aux éditions Météor. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a Victor, l'homme de l'ombre qui est juste là-bas, derrière la console du mixage, qui vous propose d'écouter la voix d'Antonin Artaud.
La maladie est un état. La santé n'en est qu'un nom. Plus mort, ça veut dire plus large et plus mesque. Pas de malade qui n'ait grandi. Pas de bien portant qui n'ait un jour trahi. Pour n'avoir jamais voulu être malade. Comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance. Les crédences petits bourgeois de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux.
Vous entendiez la voix de Antonin Artaud sur un son de Tim Hacker. Antonin Artaud était poète, acteur, metteur en scène, essayiste et bien d'autres choses. Il a connu la cruauté du système de santé psychiatrique lorsque celui-ci prétendait soigner en infligeant des électrochocs. Sophie, je te passe le micro pour poser la première question à nos invités.
La santé communautaire vers une santé émancipée, c'est le thème qu'on a choisi ce soir. Brièvement, Joseph, de quoi parle-t-on quand on parle de santé communautaire ?
Merci de cette invitation d'abord. Merci de pouvoir partager ces moments avec des gens. Je suis toujours avide de voir un peu ce que les gens bricolent par-ci par-là. D'autant plus que j'ai eu une longue expérience en institution, donc très diverses, des institutions pas forcément très joyeuses. Ça va de la prison, n'est-ce pas, jusqu'à la protection de l'enfance, la psychiatrie, bref, etc. Bon, ce que je pourrais dire d'emblée, c'est, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas une définition de la santé communautaire, il n'y a pas un label, il n'y a personne qui peut s'approprier cette sorte de marque. Ce qu'on peut dire, certainement, il y a des expériences américaines qui étaient liées au... Par exemple, c'est la généalogie qu'on pourrait en faire, c'est Black Panther, s'ils avaient fait... des interventions dans les communautés noires qui avaient à voir avec quelque chose qu'on pourrait appeler santé communautaire. Il y avait Alensky aussi, il y avait aussi les Young Boys aussi, il y avait un tas d'expériences plus tardives. Moni El Kaïm, un Belge qui était allé aux États-Unis, qui avait travaillé dans les ghettos américains. Bon, ce qui surgit à chaque fois, ce qu'on pourrait dire, à mon sens, hein, c'est que la question de la santé communautaire est un moment, au moins un minima, de résistance à l'égard des institutions qui s'octroient le pouvoir de décider ce que c'est les soins, est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est la santé mentale, si on parle de la psychiatrie, etc. etc. Voilà, donc tout ça, ça a pris des configurations très diverses. Et, en faire un peu la généalogie, c'est dire aussi un peu qu'est-ce que c'est les institutions que nous subissons aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est un peu complexe parce qu'il faut voir les paysages dévastés justement des institutions dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose d'un peu compliqué, quoi. D'un côté, il y a quelque chose qui essaye de résister et de destituer, si on veut, quoi, les pouvoirs institutionnels. Et de l'autre côté, on voit aussi que ces boulots-là, il est fait aujourd'hui par des logiques ultralibérales qui sont en train de faire de la psychiatrie, de l'hôpital, du monde médico-social, etc., un champ de ruines totale. Donc bon, voilà, on en reparlera. Mais en tout cas, juste pour dire quelque chose qui me semble, moi, vraiment définir, si on veut, la santé communautaire, c'est que c'est une manière de saper des formes d'identité qui sont déjà posées par des savoirs, que ce soit psychiatriques, médicaux, etc., etc. Donc c'est une sorte de mise un peu, on partage, quoi. On partage de quelque chose qui ne rentre pas dans les cases des identités psychopathologiques, médicales, etc., etc.
Dans la notion de santé communautaire, il y a quand même deux termes qui sont santé et communautaire. J'imagine que quand on parle de santé, déjà, on ne parle pas nécessairement de médecine. Et aussi, quand on parle de communautaire, je pense que ce serait un terme qui serait bien de définir. Est-ce que, pourquoi on ne parle pas de médecine communautaire ? Qu'est-ce qu'on entend par communautaire ? Est-ce que peut-être, du coup, les camarades de démocratie, est-ce que vous reconnaissez, par exemple, dans ce qu'a dit Giuseppe avant, c'est quoi pour vous, du coup, la santé communautaire ? Est-ce que c'est ça que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Question large.
C'est pas une... Nous, on est vraiment dans la pratique, j'ai envie de dire, et très peu dans la théorie. Donc, on commence un peu à théoriser ce qu'on a mis en pratique à partir de l'année dernière. Et effectivement, on est en train de travailler sur un projet de centre de soins communautaires parce qu'on s'est rendu compte qu'on était en train de faire du soin communautaire. Démocratie, peut-être tu peux nous faire l'historique parce que j'ai la présidente à côté de moi de Démocratie. Peut-être expliquer ce qu'on est comme collectif avant de parler de notre pratique. Ben, comme tu fais partie des personnes qui ont fondé.
Oui, bonsoir, Fatia Démocratie. Donc, je suis la présidente. Nous sommes trois à avoir mis ça en place suite à différentes confrontations, ce qui est médical, quoi. Toutes les personnes qui ont créé Démocratie ont été touchées par le problème de santé mentale. Donc, suite à ça, et on a été confrontés donc, à pas mal de déceptions, ne serait-ce que les soins déjà qui nous ont été accordés. Et on ne se retrouvait pas dedans. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va faire comme tout être humain qui se respecte, revendiquer certains droits, certains respects. Et qu'on puisse être soigné. Comment je pourrais expliquer ça ? Comme tout être humain qui se respecte, c'est-à-dire ne pas faire la différence parce qu'on est noir, arabe, et avoir les mêmes droits que n'importe quelle personne, même socialement pauvre, quoi, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si j'essaie de me faire... Enfin, je n'ai pas l'habitude du micro en même temps. Donc voilà, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ceci.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer c'est quoi les pratiques que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous faites du coup ? Où est-ce que vous êtes ?
Alors, où on est ? Alors, on est une jeune, mais alors très très jeune association qui a été créée depuis l'année dernière, au mois de mars. Et depuis, on essaie de trouver un endroit où on peut se réunir, discuter, échanger. Et être là, présent, et être à l'écoute des personnes qui sont touchées par les problèmes de santé mentale, toujours. Donc, notre but, nous, c'est de créer un café associatif, donc, où les gens pourraient franchir la porte sans être jugés, sans être catalogués, sans être mis dans un... Comment dire ? Dans une case. Et qui pourraient venir trouver une écoute, une orientation, enfin, en gros, un point d'écoute où on peut les recevoir et on peut discuter et on peut les orienter. Donc, c'est peut-être très vague, mais c'est créer un lieu où les gens peuvent venir et parler avec les personnes qui ont été touchées par les problèmes de santé mentale ou où on est aussi entouré par des soignants, des usagers et des familles d'usagers. Donc, on échange nos expériences et on essaie de trouver des solutions, une écoute, j'ai envie de dire. Une écoute des gens qui est très importante, à mon avis. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus ?
Bah, ça, je vais pouvoir faire rebondir Giuseppe après dessus. Ah, peut-être, vas-y, tu veux dire, Sophia.
Je viens de dire un truc sur la question de la santé communautaire, ce qui n'est peut-être pas anodin à dire, c'est qu'en fait, démocratie, c'est constitué dans un espace qui a été réquisitionné à Montreuil par des jeunes originaires en partie de Lannou et qui sont en partie aussi éducateurs ou qui ont travaillé dans des institutions psy, donc qui croisent un peu ces problématiques-là. Et c'est un espace qui entend se construire comme, disons, un centre social autogéré, aussi pour porter des problématiques qui n'existent peut-être pas forcément en général dans les squats, qui sont celles de la banlieue et des personnes racisées, quoi, issues de cités, comme on dit. Et donc, ça croise ces problématiques-là avec... la question psychiatrique, puisque pas mal de gens aussi qui circulent dans cet espace ont connu les institutions, quoi. Et de façon, parce que c'est pas quelque chose qui fait problème, disons. C'est juste des personnes qui circulent là, qui trouvent un espace où vous commencez à faire des choses plus ou moins arrêtées, et qui circulent, quoi. Et donc je pense que, du coup, il y a un lien assez fort entre démocratie et cet espace qui est le hangar à Montreuil, qui a maintenant un nouvel espace énorme, qui est menacé d'expulsion d'ailleurs, et où se fait un certain nombre d'autres activités comme artistiques, sportives, etc. Donc il y a un lien un peu étroit entre démocratie et hangar.
Et justement, c'est quoi les activités qui sont mises en place par exemple par démocratie tout le long de la semaine? Enfin, je sais qu'il y a une page Instagram où il y a un peu... tout qui est répertorié, mais si vous pouvez en parler un peu maintenant, peut-être voir comment ça se met en pratique, quoi.
Alors, l'idée, c'est effectivement d'avoir ce café associatif qui va ouvrir au mois de février, grâce effectivement à l'espace du hangar, qui est dans un bâtiment à Robespierre, à Montreuil. La chance qu'on a avec ce bâtiment qui a été réquisitionné par le collectif, c'est d'avoir du coup plein de salles qui ont mobilisé, qui créent une synergie parce qu'il y a plein d'autres collectifs. Il y a des ateliers d'artistes, il y a des créateurs. Il y a une équipe de designers qui sort des Beaux-Arts et qui, du coup, nous ont créé une super cuisine. Cette cuisine, elle va se créer pour le café associatif Démocratie, mais aussi pour accueillir les tantines qui cuisinaient dans l'ancien foyer Barra, qui a été expulsé. Et donc, en plus de perdre leur logement, les gens ont perdu leur revenu, leur source de revenus. Donc, elles vont pouvoir cuisiner dans ce local aussi. Et on voit, en fait, à l'échelle du bâtiment, on voit se reproduire un peu toutes les problématiques systémiques qu'il y a dans le quartier et dans tous les quartiers de Montreuil, en fait, avec la gentrification. Et on se retrouve tous avec ce bâtiment un peu comme refuge. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que chacun, que ce soit celles qui font la cuisine, ceux qui font de la boxe, ceux qui ont proposé une chorale la dernière fois. Voilà, moi je suis yoga thérapeute et donc j'ai intégré Démocratie à l'origine pour proposer un atelier de yoga thérapie, mais en fait de pratiques corporelles réparatrices. Moi je travaille dans une perspective anticapitaliste et décoloniale, donc c'est comment on va sortir de notre condition d'outil de production de capital pour revenir à soi, revenir dans soi et essayer d'aller bien et de remettre de la joie en fait dans les corps. Et en fait, l'idée, c'est un peu le soin au service des luttes, parce qu'on se rend compte qu'il faut quand même aller bien pour mener toutes les luttes qu'on a besoin de mener frontalement sur le terrain. Et ce dont on se rend compte quand on est dans un milieu populaire, et notamment où on est presque uniquement des personnes racisées, pas que, mais beaucoup, on cumule toutes sortes d'oppressions et toutes sortes de difficultés dans le quotidien qui font que, de toute façon, qu'on soit diagnostiqué d'une pathologie mentale ou pas, en tous les cas, on va avoir des moments dans notre vie où on est en souffrance psy. Et c'est pas anormal, en fait, c'est normal. Parce que les différentes couches d'oppression et les différentes couches de violence qu'on subit au quotidien font que c'est normal, en fait, de pas être bien. Et donc, quand on vous dit il faut réguler son système nerveux, ou quand on écoute tout un peu ces nouveaux coachs qui sont dans dans des formats de bien-être, de développement personnel, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans parce que ça, c'est encore un nouveau versant du capitalisme, en fait. Donc, au-delà du développement personnel, enfin, c'est pas au-delà, c'est au contraire. Nous, on va être dans un développement collectif parce qu'on estime que c'est normal, en fait, de pas aller bien. C'est normal d'avoir un système nerveux qui va pas bien quand on est en train de subir tout ce qu'on subit. Et on voit, par exemple, depuis le 7 octobre, depuis la guerre à Gaza, que tous, on va encore plus mal que d'habitude. Et en fait, c'est normal.
Je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit, Fatia, tout à l'heure, quand tu parlais du café, de se rencontrer, ou même quand vous parliez un peu du squat et du fait qu'il y a plein de gens qui se croisent, qui se rencontrent, etc. Une question qui va me permettre de rebondir avec Giuseppe, c'est que, Giuseppe, toi, tu dis que prendre soin, c'est prendre soin des relations. Et justement, dans un espace comme ça, on crée des liens, on crée des relations. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu dis ça? Et est-ce que ça rentre un peu... Enfin, selon toi, est-ce que ça rentre dans ce dont on discutait là, il y a quelques... Enfin, là, tout à l'heure, quoi.
Quand j'avais un peu énoncé les choses, dit les choses comme ça dans un bouquin qui est un peu vieux, quoi, c'est parce qu'il y avait derrière moi une longue expérience de psy en institution, justement. Et que lorsque tu es psy, bon, on te forme en gros à pas grand chose, c'est-à-dire à avoir un savoir sur des individus qui, pour qu'ils soient présents là où tu es, hein, dans une institution, ils doivent être diagnostiqués, il faut leur trouver des étiologies, il faut les individualiser d'une certaine manière. Et que je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce qui me donne moi les droits en tant que psy, avec des formations aussi, aussi bancales, quoi, à me dire que je suis un thérapeute d'individus qui sont définis par leur individualité. Et à un moment donné, je me suis dit, avec d'autres d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, tout ça, je me suis dit, ce qui définit quelque chose de thérapeutique, de l'ordre du soin, c'est le fait qu'il y a une relation, un type, une teneur de relation, une manière de se rapporter à l'autre, aux autres, qui de toute façon dépend de beaucoup d'autres relations. Quelqu'un est toujours lié à plein d'autres choses qu'à ce qu'on peut percevoir dans une institution, dans un entretien, dans un bureau, etc., etc. Donc c'est ces faisceaux, ces constellations de relations, ce que moi j'appelle un milieu de vie, qui doit intéresser à mon sens la question du soin. C'est là, je crois, les liens avec la question de la santé communautaire. Voilà, si on fait juste un peu un parcours un peu historique des institutions, c'est les institutions de soins, les institutions assistentielles, etc. C'est un travail d'individualisation, hein, d'individualisation sur lesquelles on peut exercer un certain pouvoir. Bon, voilà. Et s'intéresser à comment moi, en tant que soignant, je prends soin de la relation que moi, je peux avoir avec un tel, c'est m'intéresser à toutes ces constellations des choses que doivent un peu être convoquées, invitées dans la scène un peu de soins. Bon, voilà. Et ça, il y a plein de traditions de résistance à la psychiatrie, de résistance au monde assistentiel, de résistance au monde médical, qui l'ont pensé, qui l'ont pratiqué, et on pourra y revenir si vous voulez à un moment donné, quoi.
Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce truc d'individualiser en tout cas, les parcours de soins. Sinon, j'ai une question pour vous. Sinon, je vais peut-être vous faire rebondir là-dessus, juste peut-être pour définir un peu c'est quoi qu'on entend par soin. C'était juste, parce que finalement, se soigner, c'est pas juste écouter quelqu'un qui a un diplôme. Et prendre les médicaments qu'on dit de prendre, mais c'est aussi, partager des choses avec les autres, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Comment est-ce que vous entendez-vous le soin, en tout cas, à démocratie? Est-ce que vous avez, des idées un peu de comment répondre à cette question?
Ok. Excusez-moi. En fait, effectivement, on est plus, encore une fois, dans la pratique. Et c'est vrai que ce dont on parlait, nous, on travaille beaucoup sur la question du trauma racial et colonial aussi. Et il y a une thérapeute qui va commencer à travailler avec nous, qui s'appelle Selma Sardouk, qui est spécialisée là-dessus. Et on réfléchissait avec le fait, en fait, pour expliquer le fonctionnement du lieu, parce qu'effectivement, comme le disait Sophia, le fonctionnement de démocratie ne peut pas être décorrélé du fonctionnement du collectif Le Hangar avec qui on travaille en synergie. On a des réunions collectives tous les mardis, et il se trouve que la réunion de démocratie, en général, est juste avant la réunion du Hangar, où se croisent tous les collectifs, toutes les personnes qui interagissent, et qui vivent aussi dans le lieu, parce qu'il y a des personnes hébergées dans le hangar, il n'y a pas que des gens qui travaillent. Et donc ça donne lieu à ce que parfois, les personnes qui viennent juste pour la réunion du hangar assistent à la fin de la réunion de démocratie, qui traîne un peu, Et c'est l'occasion à chaque fois de se rendre compte qu'au final, bah, tout le monde est touché par la thématique. Et nous, on vient pour parler d'une chorale. Nous, on vient... la dernière fois, c'était une jeune femme qui venait parce qu'elle avait besoin d'une cuisine, parce qu'elle veut faire des desserts ouest-africains. Et au final, bah, elle est hyper touchée par les questions de santé mentale dans sa famille. On avait la chorale, c'est Sankofa Soul Contest, qui sont quand même assez connus. Ils avaient un local avec Absa Toussi, mais elle a été expulsée, Absa Toussi, de son local. Donc, on revient toujours sur les thématiques des personnes en fait, qui se retrouvent, même en étant une chorale qui est suivie par je sais pas, des dizaines de milliers de personnes, qui est très, très connue et reconnue dans le milieu de la musique noire. Tous les rappeurs font appel à eux. Ils ont des choristes régulièrement qui vont tourner avec Aya Nakamura ou avec des personnes de ce genre de renom. Et en fait, ils se retrouvent à ne pas avoir de salle, à être en précarité, parce que quand on vient d'un milieu racisé, ben, on se retrouve toujours en fait, confronté à ça. Et donc, la présidente de cette association-là, en faisant partie de cette réunion, elle dit « Ah oui, mais en fait, la santé mentale, mais moi, ça me questionne aussi vachement. C'est une question aussi dans ma famille. » Et donc, finalement, est-ce que chanter, ça ferait pas du bien aussi? Donc, est-ce que la chorale, on la ferait pas là-dedans? En plus, nous, on a des traditions orales dans nos pays qui font qu'effectivement, chanter et parler ensemble, c'est thérapeutique. Et c'est quelque chose qui s'est peut-être un peu perdu, mais nous, on peut l'utiliser sous une forme de soin. Et la personne qui fait les desserts, c'est pareil. En fait, faire la cuisine ensemble, c'est prendre soin de manière communautaire. C'est une transmission et c'est une manière de prendre soin. Donc effectivement, on n'est pas dans le cadre de la psychiatrie comme elle s'entend dans le cadre de l'institution, mais on est dans le prendre soin et dans le faire ensemble.
Je voulais me permettre de rajouter un ajout. Moi, du coup, je suis à Démocratie, mais depuis très récemment. Mais surtout, mon statut, c'est celui d'handicapé, d'handicapé psy, mais handicapé très lourd en termes sur le quotidien. Et il y a un truc que je me suis assez rendu compte, finalement assez récemment, en fait, dans le milieu de l'antivalidisme, donc de la lutte pour les droits des handicapés, c'est que ça, je mets ça en lien avec l'aide communautaire et l'aide qui va toucher un petit peu une énumération, mais une liste de quelques types de personnes qui pourraient aussi être touchées par l'antipsychiatrie, et pas par l'antipsychiatrie, mais surtout par l'aide communautaire sur les sujets de soins psy. Et c'est aussi un sujet qu'on retrouve dans l'antivalidisme par le fait que nos handicaps, ils sont vraiment multiples, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges que ce qu'on voit à la télé. Il n'y a pas seulement les PMR, même les PMR, il y en a de mille façons différentes. Et on se retrouve à devoir, en fait, finalement, une vraie aide pour les handicapés, c'est une aide adaptée à chacun. En fait, l'aide adaptée à chacun, on se rend compte assez rapidement qu'un État qui veut classer, analyser, nommer toutes les choses, il n'en est pas capable, il n'en a peut-être même pas envie. Et du coup, avec une aide communautaire, en fait, on peut faire une aide beaucoup plus simple, où juste, on vient, moi je viens à un endroit, je dis, voilà, j'ai ce handicap. Il y a trois personnes qui disent « Ok, voilà, on va faire ça pour adapter le lieu à ton handicap, le temps du moment. » Et par cette communauté, parce que la forme habituelle, classique qu'on a pour gérer le handicap, en tant qu'handicapé, je parle vraiment, de fait, c'est peut-être pas ce qu'on raconte sur les images et sur les jolies télés, mais c'est en soi, on se démerde tout seul à devoir appeler tous les restaurants pour savoir si on peut faire entrer notre fauteuil roulant, vous voyez. Donc, en soi, le fait que tout le monde vienne aider quasiment, peut-être pas naturellement, mais qu'on demande à nos potes d'adapter le restaurant pour nous et pas à nous, et que ça soit pas à nous de le faire, rien que ça, c'est une aide communautaire qui marche très bien et qui est assez rapide, en fait.
Alors, vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure la psychiatrie un peu institutionnelle. En janvier 2019, il y avait une journée nationale de la psychiatrie où Léo Lefrançois, un des journalistes qui est passé par Radio Parleur, s'est rendu. Et c'était un rassemblement de protestation Place de la République à Paris contre le manque de moyens au sein des hôpitaux et des différentes structures de psychiatrie publique. On écoute juste un extrait avant de passer à la suite.
Bonjour, vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour.
Bravo à la lutte des Pinel en lutte, à la lutte du Rouvray, à la lutte des blouses noires, à la lutte de la psychiatrie parisienne unifiée, de tous les collectifs sur tous les territoires qui se battent.
Fédérons-nous à partir de nos différences, c'est-à-dire à partir des problèmes qui se posent à chacun dans ses pratiques, ses pratiques de vie, de citoyens, de proches, dans ses pratiques professionnelles, syndicales, militantes. Continuons de créer des points de rassemblement comme aujourd'hui, pour créer à partir des expériences des uns et des autres.
Bonjour, je suis Élise, une infirmière. Je travaille au CHU de Nantes, à l'hôpital Saint-Jacques. Bah nous, qu'est-ce qu'on constate ? On constate des patients en souffrance et des soignants épuisés. Là, voilà, ça résume bien parce que nos patients en souffrance, parce qu'en fait, la base du soin en psychiatrie, c'est la relation humaine. Et en fait, du coup, on n'a plus le temps auprès de nos patients pour les soins, en fait, tout simplement. Du coup, nos patients souffrent. Donc, il y a des tensions qui augmentent, ce qui peut engendrer des passages à l'acte violents. Il y a quand même un patient qui est revenu dans la structure avec un manche, avec des lames au bout du manche et qui a agressé quatre soignants, en fait. Ça marque hein, des choses comme ça. Hein.
Merci à vous.
Alors, pour nous, ce qu'on constate, c'est l'inéquité dans l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, ce qui entraîne finalement pour les familles une très grande difficulté pour l'accès aux soins, parfois 3 ans, une grande difficulté à avoir des diagnostics, et du coup, pendant ce temps-là, les situations se dégradent. Et c'est ça qui nous est le plus insupportable en tant que famille.
Vous faites quoi ? Vous êtes
Je suis infirmier à Sainte-Anne et je suis le secrétaire de la CGT de l'hôpital Sainte-Anne. À Sainte-Anne, on vient d'être jumelé, là, 3 hôpitaux psychiatriques viennent d'être jumelés, Maison-Blanche, Péré-Vaucluse-Sainte-Anne, 135 suppressions de postes. Donc les effets d'annonce sont là, mais en tout cas, nous, dans les services, les suppressions de postes, on les ressent. Et l'objectif, ça serait de tenir une loi organique sur la psychiatrie. Je veux dire, il faut vraiment qu'on parle de ça. Je veux dire, la pénurie des psychiatres est aussi annoncée. Je veux dire, dans 5-6 ans, ça va être vraiment la cata, quoi. Hein, maintenant, les patients, on les garde de moins en moins. Selon les pathologies, ils restent 15 jours, 3 semaines à l'hôpital, et puis on les renvoie chez eux pour libérer des lits. Mais quand ils repartent chez eux, ils ne sont pas stabilisés. Et ils reviennent ou ils font n'importe quoi dans la rue. Voilà. Et puis surtout, il faudrait revaloriser les salaires, retrouver de l'activité. Notre métier, c'est d'aider les patients avec la parole et pas de les bourrer de gouttes ou de médicaments.
Alors la psychiatrie institutionnelle n'est pas épargnée non plus par le nouvel esprit du service public managérialisé, où les coupures budgétaires se font de plus en plus nombreuses, la réorganisation de services permanentes, la fermeture de lits constantes. Et pourtant, on a du mal à imaginer, voilà, d'un point de vue émancipateur, qu'un horizon un peu, qu'on pourrait dire révolutionnaire, puisse exister dans la psychiatrie institutionnelle. Giuseppe, est-ce qu'il y a un chemin qui est imaginable entre la destruction programmée du service public de santé et une sorte d'ode à la psychiatrie institutionnelle ?
On est dans un moment, je pense, un moment paradoxal, quoi, parce que il fut un temps dans lequel on se disait on peut résister, même penser des choses impensables en France, parce que la France, comme vous le savez, c'est les royaumes de l'institution, c'est-à-dire des logiques abolitionniste, désinstitutionnalisante, tout ça. Il fut possible un temps de penser tout ça, et ça s'est, on l'avait fait, ça avait été fait en Italie, avec la psychiatrie démocratique dans les années 70, ça avait été fait dans plein d'endroits. C'est-à-dire qu'on avait fermé les asiles. Bon, alors, fermer les asiles, ça pose plein de questions. Si les gens sont dehors, sont mis dehors, ils vont où, quand tu es fragilisé, vulnérabilisé, que tu es devenu dépendant de l'institution, etc., etc. C'était des questions qui avaient été pensées en Italie dans les années 70. Donc, c'était pas juste jeter les patients qui avaient été chronicisés dans les institutions, les foutre dans la rue. C'était tout un tas de choses qui avaient été fabriquées, des réseaux, des centres sociaux, même des syndicats s'étaient impliqués, de coopératives, bon, tout un tas de choses, toute une constellation, un réseau des choses. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que c'est pas le même monde. On n'est pas dans la même société, entre guillemets. Donc, on est dans les paradoxes. C'est ce que j'ai essayé de dire au début. Entre, d'une part, quelque chose qui est une attaque cruelle et brutale de la part du management néolibéral, du service public en général et de la psychiatrie en particulier, si on pense à la psychiatrie. Et d'autre part, une sorte de réaction qui voudrait réinstituer la psychiatrie avec quand même un truc humaniste, nanani, nanana, etc. Bon. Alors là, je pense qu'il faut faire vivre des choses qui sont un peu paradoxalement contradictoires. C'est et une logique de destitution du pouvoir psychiatrique et en même temps ne pas accepter qu'on fasse de la psychiatrie simplement un champ de ruines dans lequel... Parce que concrètement, lorsque vous avez un copain, un ami, un frère qui fait une bouffée délirante, bon, qu'est-ce qui se passe en général ? Moi, je reçois des coups de fil dans les réseaux un peu autonomes, etc. Bah, tiens, notre pote, il est en train de délirer, qu'est-ce qu'on fait, machin. Bon, on résiste 3, 4, 5 jours avec quelqu'un qui a un syndrome de persécution, etc. Mais au bout de 5 jours, on ne sait plus quoi faire, on est épuisé, on ne dort plus et on n'arrive pas à contenir tout ça. Donc comment ça se finit toujours, cette histoire-là? Ça se finit aux urgences, en psychiatrie, à Sainte-Anne, quoi. Voilà, bon, donc il faudrait voir un peu comment on pensait concrètement ces genres de choses, et c'est pas dans des trucs purement et spéculatifs et tout ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand dans une famille on est témoin des violences extrêmes de la part des parents à l'égard des gamins, et qu'il n'y a pas justement ces réseaux communautaires, ces liens communautaires à partir desquels, jadis, dans un autre temps, on pouvait réguler des choses. Elles sont en train d'être atomisées, littéralement atomisées. Voilà, donc les gens finissent par faire appel à un signalement et ça se finit à la protection de l'enfance avec des éduques, etc., 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 etc. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Moi, je pense que d'un point de vue purement pragmatique, et j'en finirai là, c'est que je pense qu'on est condamné à avoir appel d'une certaine manière à des institutions, mais qu'il faut leur imposer la contrainte de ce que vous racontez, c'est qu'il y a des espaces autres. Des espaces autres qui contraignent les gens qui bossent dans la psychiatrie à en tenir compte. Il y a, c'est dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre soin d'autres gens sans que ça passe par la case hospitalisation, contention, etc., etc. Et à cet endroit-là, la psychiatrie peut repenser ses pratiques aussi pour les modifier là où elle est complètement enfermée dans un appel à la réinstitution, hein, contre les managements libéraux, les méchants, machin truc, etc., etc. Moi, je trouve que c'est un peu le problème aujourd'hui de la psychiatrie de gauche, c'est qu'ils veulent réinstituer l'institution sans réellement s'intéresser à ce que ça serait fabriquer un dehors à l'institution, dont il y a 1000 exemples. Vous en évoquez un aujourd'hui à Montreuil, à Lannou, hein, je crois, non, c'est ça, à Lannou. J'en ai plein d'autres aussi dans l'esprit, etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être remobilisées. Mais bon, bien sûr, on ne va pas écouter avec indifférence ce que racontent ces soignants-là qu'on vient d'écouter lorsqu'ils sont témoins de cette sorte de cynisme du pouvoir qui fait que, voilà, on coupe des budgets, on vous laisse crever en tant qu'infirmier, etc., etc., etc. Bon, voilà, il faut trouver un truc là, et ça sera compliqué, mais c'est faisable.
Ce que je voulais dire et qui revient un peu sur la question précédente, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de tâtonnements, en fait. Donc, c'est une association qui vient de se créer, et donc qui se fait aussi par tâtonnement pour penser en fait comment on accueille justement des niveaux différents de difficultés psychiques. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un espace aussi qui brise les fonctions qui sont cristallisées, quoi, les fonctions soignantes et les fonctions, enfin, d'être soigné et d'être soignant, quoi. Un espace pour penser ensemble, c'est quoi cette expérience, du coup, de d'être là-dedans et de penser l'institution à l'extérieur de l'institution, quoi. Et justement, on a, pour répondre à la question précédente aussi, on a commencé les réunions en ouvrant un espace de réflexion où en fait chacun parlait de son expérience de soigner ou de soignant ou des deux, et de là se créer des réflexions qui duraient longtemps et qui étaient super intéressantes, d'essayer de défaire l'expérience de l'institution, quoi, et de penser à la fois théoriquement et pratiquement en fait ce que c'est, comment on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'en défaire, pour créer d'autres espaces. Et ça a duré pas mal de temps, et en fait c'est déjà en soi un espace de soins, parce que d'accueil pour penser sa propre expérience, parce que c'est passer par ces espaces qui sont des espaces qui détruisent, quoi. Et voilà, donc déjà d'avoir un espace pour parler de soi autrement, quoi, autrement qu'en étant juste soigné ou qu'en étant soignant. Et ça, je pense que ça a été un truc qui a libéré pas mal de paroles et qui permet pas mal de choses. Et du coup, de là, cet espace est ouvert, il y a pas mal de gens qui circulent et qui passent et qui trouvent à un moment donné un espace pour parler et pour faire des choses aussi, puisque justement c'est lié à un espace où il y a des activités. Donc en fait, à travers ça, il y a du soin qui se crée, et il y a aussi des difficultés, parce que se posent aussi des questions de comment on fait avec des plus grandes difficultés, comment on fait collectivement, comment t'accueilles ça, quoi.
Bah, du coup, tu as répondu en partie, et puis il y a une partie de ce que vous dites depuis tout à l'heure qui y a répondu. Mais nous, ce qu'on se demandait quand on vous écoute, c'est qu'est-ce qui pourrait vous différencier d'un groupe d'entraide mutuelle qui est aussi un lieu, donc un espace non médicalisé où il existe également une autre manière de faire du soin. Enfin, tout à l'heure, Fatia, tu as notamment parlé des familles aussi, des personnes. Donc ça, par exemple, peut-être que d'intégrer aussi les aidants, les aidantes, c'est une manière de se différencier. Mais du coup, vous, qu'est-ce qu'il y a en plus ou de différent ou pas d'ailleurs?
Ce qu'il y a en plus à Démocratie, c'est qu'il y a des travailleurs du soin avec des usagers de soins et des gens qui sont ni scientifiques, ni comme travailleurs du soin, ni comme usagers de soins, et qu'on essaye de penser collectivement du soin autogestionnaire, et qu'il n'y a pas de... tout en ayant conscience qu'il y a des intérêts qui peuvent être divergents, qui peuvent s'opposer entre travailleurs d'institutions et usagers. Voilà.
Tu veux rebondir sur autre chose, Capucine ?
Je peux peut-être redire un truc par rapport aux GEM. Vas-y. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que les GEM aujourd'hui ? C'est des trucs hyper institutionnalisés où il ne se passe pas grand-chose d'autogestionnaire de manière assez large. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des expériences hyper intéressantes. Mais voilà, nous, on est aussi sur un versant politique. On essaie de politiser les questions de soins. Et on essaye aussi de diversifier nos actions. Et on n'est pas que sur de l'occupationnel ou sur des sorties culturelles comme peuvent faire les GEM. Voilà.
Je peux compléter un peu parce que, bon, en effet, les GEM, bon, ils sont financés déjà. Hein, et financement dérisoire d'ailleurs. Hein, ils touchent 75 000 balles par an qui servent à payer des salaires d'animateurs, c'est vrai. C'est les animateurs qui sont payés. Donc, c'est quoi les statuts d'usager? Qu'est-ce que c'est les statuts d'un animateur? Pourquoi animateur? Pourquoi? Moi, j'ai travaillé avec des GEM pendant 5 ans. Il y avait plein de psys qui n'avaient pas envie de travailler dans des structures plutôt du monde de la psychiatrie, tout ça. Ils préféraient travailler dans des GEM. Donc, avec des salaires assez dérisoires, finalement, hein, après tout. Hein, des SMIC, quoi. Hein, bon, à mi-temps, etc. Donc, oui, c'est un truc institutionnel, en effet. Moi, ce que j'en tire d'un peu positif, par contre, de ce que j'ai pu voir dans les GEM, c'est qu'ils avaient un peu... avec ceux avec lesquels j'avais travaillé, quoi. Donc c'était plutôt la Seine-Saint-Denis, un peu Val-d'Oise, etc. C'est qu'il y avait un travail un peu d'enquête qui était partagé, quoi. Qui était, en tout cas, il y avait une tentative de les rendre partagés, parce qu'il faut aussi son capacité aussi à une logique un peu de, désolé d'user un mot un peu galvaudé, mais son une logique d'empowerment aussi. Comment on se rend capable de quelque chose qui, a priori, on se disait, non, je ne suis pas capable de tenir un cadre collectif, je les délègue à quelqu'un d'autre, etc., etc. Bon, il y avait cette tentative-là qui suppose aussi un travail un peu de cartographie, quoi. C'est-à-dire comment on fabrique des cartographies, c'est-à-dire comment on trace un peu, d'une façon vivante, hein, des cartographies de nos milieux de vie. Des milieux de vie, c'est-à-dire... où nous circulons, quand nous allons mal, ou à quoi nous avons recours. Parfois, c'est des institutions, parfois, ce n'est pas des institutions, parfois, c'est des groupes, parfois, c'est un troquet sympa qu'on aime bien, etc. Tout ça, c'est des cartographies vivantes, quoi. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en place d'une cartographie un peu soignante, quoi, à partir de laquelle on peut intervenir et à partir de laquelle la psychiatrie pourrait aussi intervenir si elle était moins frileuse, si elle était un peu plus ouverte, si elle était un peu plus dans une prise de risque, quoi. S'il se disait, oui, moi, je renonce en partie à mon pouvoir de psy qui a un savoir sur la psychopathologie, nanana, et je m'intéresse un peu plus à c'est comment les gens tissent de rapport avec des milieux de vie, quoi, les milieux de vie ordinaires des gens, quoi. Comment j'invite ces milieux de vie dans l'institution. Il y a des exemples concrets qu'on pourra évoquer, si vous voulez, des tentatives des gens qui essayent un peu d'introduire ça dans l'institution. Parce que, comme je vous disais au début, je pense qu'aujourd'hui, moi qui suis plutôt abolitionniste de la psychiatrie, il est difficile de se dire qu'on va boucler la psychiatrie du jour au lendemain, quoi, vu l'état des détresses dans lesquelles trop de gens, hélas, sont aujourd'hui, quoi.
Juste, on ne t'a pas présenté, tu t'appelles Antoine, c'est ça ? Tu fais aussi partie de Démocratie. Peut-être, avant d'enchaîner sur la partie d'après, tu as parlé du coup de la différence qu'il y avait entre vous et les GEM, c'est que vous introduisiez une dimension politique. à ce que vous faisiez. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un peu c'était quoi cette dimension politique à la base de la création de Démocratie ? Pourquoi justement pas avoir rejoint ou participé à des structures comme des GEM ? Pourquoi avoir créé un collectif dans un squat à la base ? Enfin, voilà, je ne sais pas si vous aviez peut-être plus de précisions là-dessus.
La genèse de Démocratie, c'est une rencontre avec... moi, je suis à ce moment-là, je suis infirmier dans un CATTP à Vitry. Et je rencontre Fatia et Anna, qui sont patientes à ce moment-là. Et on fait au niveau du CATTP quelque chose de... un travail émancipatoire ensemble. Avec des groupes autogérés, voilà. Sauf que c'est des choses qui plaisent pas à l'institution, qui plaisent pas à certains collègues, et qui moi va m'amener à quitter un peu précipitamment la structure, avec quand même une grosse frustration, dire putain j'ai pas fini le boulot, et puis de toute façon je finis jamais le boulot, à chaque fois je dois partir. Et bon voilà, et j'ai gardé contact avec Fatia et Anna, et j'avais dans l'idée que on pouvait faire des trucs ensemble. Et je leur ai proposé, est-ce que voilà, ça vous dit pas de faire un truc ensemble où bah, c'est nous qui décidons quoi. Et il y a plus ces putains de collègues réac et cette institution qui refuse autre chose que ce qu'elle dicte quoi. Et voilà comment c'est né. Après nous on se rapproche du hangar de Montreuil, dédicace. Et moi je connaissais des gens là-bas avec qui j'avais travaillé, qui étaient un peu dans ce mood là. Et on se rencontre là-bas, et là-bas il y a beaucoup de passages, et voilà, ça commence par des groupes de parole comme l'a expliqué Sophia, et puis de là va émerger un tas de trucs et une réflexion autour de le fait de partager collectivement aussi ces expériences. C'est là où je trouve qu'on va commencer à se politiser, à se dire bah il faut qu'on intervienne sur les structures et comment on peut le faire à notre niveau. Et puis aujourd'hui, moi, je dirais qu'on est devenu quelque chose qui a à voir avec une communauté thérapeutique. Voilà. Et c'est pas une secte, hein, mais ça a à voir avec un truc comme ça, quoi. Moi, je me soigne avec Démocratie, quoi. Et moi, je me revendique aussi comme folisé à travers... voilà. J'interviens pas comme soignant.
C'est un schisme.
Ouais.
Ouais, je trouve... J'aimerais bien vous faire rebondir un petit peu aussi là-dessus, parce que tout à l'heure, toi, tu parlais aussi de quelles conditions économiques et sociales les gens provenaient, etc. Et je ne sais pas si tu voulais un peu aussi rebondir là-dessus, sur le versant un peu politique de Démocratie, ou de quoi ça participait.
Bah, du coup, je vais faire ce qui est, à mon avis, important à chaque fois, c'est de parler de son expérience personnelle, puisqu'au final, c'est ce qui fait que, qu'on a des constats. J'ai commencé par être journaliste politique et par travailler sur tout ce qui est questions sociétales et notamment de discrimination pour la presse afro-caribéenne. Et ensuite, j'ai eu un petit garçon qui était atteint de drépanocytose, donc une maladie génétique qui n'est pas rare, qui est la première maladie génétique au monde, mais qui est très très mal soignée parce qu'elle touche essentiellement les Noirs. Et donc mon fils a été hospitalisé. Bah, d'abord, on a mis 2 ans à avoir un diagnostic. Ce qui fait que pour la première maladie génétique au monde, et qui est quand même à 120 000 porteurs en France, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus que la mucoviscidose, par exemple, pour citer la maladie la plus connue pour laquelle on fait le téléthon, etc., et que du coup tout le monde connaît, bah, y a énormément plus de patients que la drépanocytose, que personne connaît, parce que bah, quand on est blanc, ça risque pas de toucher notre enfant, donc du coup on est vachement moins concerné. Donc avant de réussir à avoir un diagnostic pour mon fils, on m'a quand même accusé d'abord de maltraitance, parce qu'il avait des lésions osseuses, et ensuite de faire un Munchausen. Donc, je ne sais pas ce que c'est, Munchausen.
Qu'est-ce que c'est, hein ?
Donc, le syndrome de Munchausen, c'est un syndrome où la mère est cinglée, et du coup, elle invente... Enfin, elle est tellement folle qu'elle crée des symptômes chez son enfant parce qu'elle a envie qu'il soit malade. Alors, soit ça fonctionne juste par la psychologie et l'enfant somatise, ou soit carrément la mère empoisonne l'enfant pour qu'il soit malade. Donc, pour dire à quel point l'hôpital en France est une institution tout aussi raciste et classiste que les autres, on a réussi quand même à... Il avait les symptômes évidents de la maladie la plus courante au monde chez les enfants de son type. Et on m'a d'abord accusé d'un Munchausen, qui est un truc hyper rare et complètement farfelu, avant de lui trouver la maladie dont il avait tous les symptômes et qui devrait être détectée normalement à la naissance. Et donc ensuite, l'expérience de passer des années à l'hôpital m'a montré les différences de soins. Et pour revenir sur le thème de la psychiatrie, notamment quand on est un patient en pédiatrie générale ou en médecine générale, souvent, on va se voir administrer des anxiolytiques ou des antidépresseurs sans même qu'il y ait une discussion auparavant, parce qu'on va estimer que comme on est un patient noir, de toute façon, on va être réfractaire à la thérapie. Donc au lieu de proposer d'avoir un rendez-vous avec un psy, on va mettre votre enfant de 4 ans directement sous anxiolytique sans vous poser la question. Et si vous ne faites pas partie des gens qui se posent des questions, qui lisent les ordonnances, qui demandent bah, « tiens, cette perfusion, qu'est-ce qu'il y a ?» Et bah, votre enfant se retrouve sous traitement, voire même sédaté, avec des benzodiazépines, etc. Alors que l'enfant blanc dans la chambre à côté qui a des parents bourgeois parisiens, bah, on va proposer à ses parents d'aller voir une psy. Et puis il va y avoir une thérapie familiale mise en place. Et puis si tout ça, ça marche pas, bah là peut-être qu'on envisagera un traitement. Mais votre enfant, vous, bah, si vous n'étiez pas super vigilant, il est mis sous traitement directement. Donc cette thématique de la psy, on voit que quand on fait partie des populations effectivement qu'on dit racisées, c'est quelque chose qui nous touche. Mais alors c'est un peu à double tranchant parce que d'une part, on va avoir tendance à être mis sous traitement comme on voit, bah, sans l'avoir demandé si on a une pathologie autre. Ou alors d'avoir un traitement, et là, le fait d'avoir des soignants justement dans l'association nous a permis d'apprendre aussi beaucoup et de savoir qu'un patient noir, homme par exemple, va recevoir des doses, je ne sais plus, 10 fois, ou je crois, tu disais, 20 fois plus fortes de certains traitements. Sur
20 fois.
En tout cas, et bon, il y a quand même des morts dans l'institution. L'année dernière, il y a eu un mort en Belgique.
C'était un assassinat, c'est encore autre chose.
Ouais, mais...
Criblé des balles.
Voilà, en tout cas, le corps de l'homme noir qui est criminalisé dans la société de manière générale, dans l'institution psychiatrique, il est assommé de médicaments. Et c'est un peu un... Comment dire? C'est très paradoxal, parce que d'un autre côté, on peut aussi avoir chez nous des pathologies ou des souffrances psychiques qui ne vont pas être prises en compte et où les hommes noirs et arabes vont être criminalisés et mis en prison, en détention, alors qu'ils auraient dû avoir une prise en charge psychiatrique. Donc il y a les deux versants. Soit quand on est psychiatrisé, on va être trop assommé de traitement et on ne va pas être pris en charge correctement, mais aussi on va être plutôt criminalisé que soigné.
Alors la question que j'avais écrite, elle va peut-être relever d'une espèce de gymnastique un petit peu compliquée à effectuer. Joseph, toi tu parles de capitalisme thérapeutique. Est-ce que faire un lien entre ça... Est-ce que tu viens de décrire un peu Capucine? Ou pas du tout?
Ouais, bon, enfin, c'est un peu vieux, ces titres-là. C'est, ça fait 20... Je sais pas, c'est en 2011 que j'ai sorti ce bouquin-là. Si. Non, mais parce que c'était un moment dans lequel on était encore très héritier de cette sorte d'attention envahissante de la part des institutions. Pour faire un peu société, quoi. Pour caser un peu les gens partout, même dans ces marges, il fallait un peu, voilà, quoi. Ce qu'on appelle, bon, excuse-moi d'utiliser un mot un peu, ce qu'on appelait l'état pastoral, quoi. Hein, l'état pastoral au sens où, voilà, l'état veille sur ses brevis, quoi. C'est les bergers qui veillent sur ses brevis, y compris les brevis qui s'égarent, quoi. On était encore un peu dans cette matrice, dans un état pastoral. Donc, il y avait une logique de prendre soin de la société en tant que la société. Il fallait caser tout le monde quelque part, même si ça supposait plein d'inégalités, de divisions, des asymétries, etc., etc. C'était un peu... c'était plutôt la question que j'ai dit à ces moments-là, qu'on prend soin... la santé, c'est un système de santé, c'est la santé du système. Il fallait que... réussir à que les systèmes soient en bonne santé, les systèmes. Bon. Et puis, je pense que depuis, on a eu une accélération colossale, quoi, d'une sorte de décomposition de ce quadrillage de l'État qui était un peu partout, dans le monde assistentiel, dans la psychiatrie, dans le médico-social, etc. Bon, tout, il quadrillait un peu tout. Et ça, c'est en train de se décomposer. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis que c'est en faillite. Hein, c'est en faillite. Il y a une sorte de principe aujourd'hui avec une gouvernementalité comme celle d'un Macron, quoi. Un Macron, moi, je le définirais un peu comme une sorte de libéral fasciste, quoi. Une sorte de libéral fasciste. Qu'est-ce qui est au cœur du libéral fascisme? C'est pas cette attention extrême qu'avait décrit Foucault. Il faut aller chercher les écarts, la normalité, la réintégrer d'une manière ou d'une autre. C'est plutôt on s'en fout. on s'en fout. Et les formes de négligence brutale de l'État aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut laisser crever. Moi, je suis arrivé en 85 en France. Je ne voyais pas ces masses de gens dans la rue, en train de crever, dans des camps, avec des rats, avec des flics qui viennent harceler les tentes, des gens qui essayent de se réfugier. Enfin, on n'avait pas vu tout ça. On n'avait pas vu cette sorte de négligence mortelle. On laisse noyer des dizaines de milliers de personnes dans la mer aujourd'hui, sous les yeux des polices de Frontex. On n'avait pas vu ça à l'époque, il y a 30 ans, quand je suis arrivé en France. Donc il y a une nouveauté historique. Donc c'est en ce sens-là que mon titre aujourd'hui n'est pas tellement adapté. Ce serait plutôt l'État, on s'en fout. L'État, on s'en fout. On laisse crever les gens. Bon, voilà. Donc c'est en ça que ça change. Alors, évidemment, ce que tu décris avec cette expérience, ça se radicalise. Parce que du coup, ça veut dire quoi? Que dans cette décomposition, ce qui était au cœur de l'État, d'une certaine manière, Foucault, il dit l'État dans son cœur, l'État pastoral, il fonctionne par racisme. Pas simplement le racisme colonial, mais le racisme par rapport à tous les anormaux. C'est-à-dire qu'il y a des sous-espèces. Il y a une espèce qu'il faut faire vivre, la population, il faut la faire vivre. Et puis après, il y a des sortes de sous-espèces, tous les anormaux, tout ce qui diffère, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est étranger, quoi. Et bien entendu, l'étrangeté de ceux qui viennent d'ailleurs, elle est au premier chef aujourd'hui au cœur de la brutalité policière étatique, mais aussi l'étrangeté de ceux qui ne sont pas comme correspond à une norme sociale, etc., etc. Et tout ça, c'est en train de se décomposer. Donc voilà, dans ces sens-là que je serais un peu mitigé par rapport à mon titre.
je voulais... Du coup, c'était plus en réaction à l'intervention précédente que celle-ci. Mais je voulais rajouter aussi un angle assez intéressant quand même sur pourquoi, c'est une question, en vrai, c'est une question qu'on pourrait se poser, qu'on sait un peu naturellement, mais c'est intéressant quand même de se la dire. Mais en fait, pourquoi se politiser s'il y a aussi du soin? Pourquoi, je sais pas, moi je viens me faire aider, quoi, je viens pas me faire embrigader, comme on pourrait dire. Et en fait, il y a aussi, même sous la forme de soins, même dans le but de soins, en fait, se politiser, ça a aussi une utilité extrêmement forte. Je pense que c'était vraiment sous-entendu dans le discours des aidants sur les racisés. Mais moi, j'ai envie de t'expliquer un petit peu dans mon parcours du coup de jeune en tant que jeune sous la forme politique, c'est-à-dire d'enfant qui subit l'infantilisme et qui subit l'agisme. Pourquoi en fait c'est très se politiser, comprendre en fait le monde qui est autour de nous tout simplement et comprendre les discriminations qu'on subit. Bah, c'est extrêmement important pour juste savoir comment en fait, pouvoir se rétablir ou tout simplement comment pouvoir vivre autrement d'une manière un peu plus confortable quand même. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, aller à un endroit où non seulement où on vous écoute, où on vous dit, voilà, on vous offre un café, on pourrait dire, mais aussi à un endroit où on vous explique un petit peu les mécaniques qu'il y a autour de vous. Bah, moi, en tant qu'enfant, du coup, je n'ai pas vécu ici la démocratie, mais ça aurait pu me permettre que quand il y avait mes parents qui me maltraitaient, quand il y avait mes parents qui, à cause... pas d'une volonté vraiment propre et personnelle, mais juste à cause d'une idéologie dominante absolument hégémonique qu'il y avait absolument partout, se disait que un enfant qui passe de super bon élève à l'école à incapable de sortir de son lit, c'était forcément déjà... Peut-être qu'à cette époque-là, il disait de sa faute, mais on disait que c'était de ma faute, mais en tout cas, ce qu'il disait surtout, c'est que j'étais pas normal et qu'il fallait absolument pas me faire vivre sous la forme, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait que j'aille en institution et que j'aille crever là-bas. Crever, genre en mode crever de vieillesse peut-être, hein, mais crever quand même. Et ne pas avoir de vie à côté. Et à ce moment-là, du coup, moi j'écoute mes parents me laissent libre. C'est-à-dire que bon, l'infantilisme fait que je n'ai pas de citoyen évidemment, vu que je ne suis pas majeur. Mais ils me laissent libre de choisir. Mais moi, face à mes parents qui me disent ça, face à des psychologues que mes parents me forcent par, vous voyez un petit peu les contrictions morales que peuvent faire les parents, à aller voir. Des psychologues, du coup, psychanalystes. Moi, du coup, je suis autiste. J'ai un diagnostic autiste qui sont un petit peu, sur l'échelon psychanalytique, vraiment l'énorme trou noir qu'ils ont et la chose à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Du coup, moi, je me suis retrouvé face à ça. J'ai subi, j'ai suivi. J'ai eu des idées extrêmement sombres, des idées noires, parce qu'on me disait que je pouvais même pas exister dans le monde. Déjà, on me disait que l'autisme, ça n'existait pas. Et en fait... En allant dans un lieu politisé, j'aurais peut-être pu comprendre qu'en fait, les psychanalytiques, dans leurs écoles de pensée, ils y comprenaient rien sur l'autisme, c'était assez normal vu l'histoire de la psychanalytique, qui ne traite pas du tout ces sujets-là. J'aurais aussi pu comprendre qu'en fait, le fait que mes parents veuillent absolument me faire travailler à l'école, c'était pas une volonté du Saint-Esprit ou que c'était pas un truc absolument normal et et totalement commun au monde entier, mais que c'était juste parce qu'il y avait une idéologie travailliste et productiviste qui existait en France, une idéologie du coup issue de la société industrielle, où en fait chaque individu a comme quasiment unique rôle de servir de machine à la société, aller que ce soit dans des usines ou même dans un centre social ou même dans une école en tant que prof, on doit avoir une utilité sociale. Et moi, si j'avais compris à ce moment-là que ce truc-là, il n'était pas inné, mais juste qu'il venait d'une histoire, voilà, histoire de la bourgeoisie, il y a plein d'histoires qu'on pourrait raconter sur ça. En fait, peut-être que je me serais dit, ah ouais, en fait, bah, je peux vivre tout simplement sans travailler, et peut-être que j'aurais pas eu d'idée noire, et peut-être que le soin, bah, en fait, il se serait fait juste quasiment par la connaissance, en fait, tout simplement.
Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Joseph, sur ton analyse de l'état s'en fout, là, de la psychiatrie. Moi, je suis pas convaincu de ça. Peut-être dans les discours, c'est ce qui transparaît, mais en pratique, il y a un vrai projet qui est un projet d'enfermer les fous, les dangereux, et aussi de la remise au travail. Nous, on se base beaucoup sur le mouvement rétablissement, sur démocratie, mais dans sa conception émancipatrice, autogestionnaire et collective. Et aujourd'hui, ce mot-là, il est subverti, si j'ose, pour dire, bon, allez, prends en main ton rétablissement, sors-toi les doigts et va bosser, quoi. C'est un peu les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. C'est beaucoup de la remise au travail, les job coach, etc. Enfin, il y a énormément de dispositifs maintenant qui existent. Et voilà, juste...
Si vous voulez pas oui.
Non, moi je suis juste morte de rire parce qu'on fonctionne vraiment tout le temps qu'en collectif, donc on savait qu'il fallait venir à deux ou trois, mais pour ceux qui n'ont pas le visuel, il y a tous les membres de démocratie qui sont en train d'arriver. Et donc je sais pas, peut-être qu'il y a Aïcha ou Anna, ou Nemo, vous avez des choses à rajouter.
On arrive en retard.
Bah justement, on allait passer à la partie suivante qui est ouverte du coup, à toutes les personnes qui ont envie de prendre la parole. Donc peut-être que comme ça, on pourra introduire un petit peu aussi l'émission, enfin permettre de prendre l'émission en cours de route. Du coup, j'essaie de me rattraper là. Du coup, des perspectives, il nous en faut un peu pour mettre en acte une santé qu'on pourrait dire émancipée. Et pour faire le lien avec la prochaine partie, du coup, Victor, qui est juste là, qui fait la réelle, il vous a proposé un collage sonore entre un reportage de 1962 sur un village hôpital à Lannemezan et un reportage sur le centre de jour qui s'appelle l'Adamant, qui est un bateau flottant qui est sur la rive droite à Paris. Et vous allez voir que les choses n'ont pas énormément changé au final depuis les années 60.
Vous êtes ici dans le domaine des malades mentaux. Nous vous demandons de ne pas y être moins raisonnable qu'eux. Cette pancarte apprend aux passants que l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, près de Tarbes, n'est pas un asile mais un village où le dimanche soir, on danse.
C'est un lieu d'accueil et d'hospitalité où on essaye de réunir le maximum de conditions pour qu'une rencontre puisse avoir lieu. On propose des ateliers, des collectifs, des micro-événements qui peuvent redonner un peu de familiarité là où il y a de la bizarrerie, par exemple, qui peuvent relancer un peu l'art de la conversation, là où on a envie que de se replier sur soi ou de devenir très mutique, où on peut être un peu réanimé quoi, par la présence des autres.
Je suis Nicolas Philibert et j'ai fait ce film qui s'appelle « Sur l'Adamant », ici, dans ce bel endroit. Qui abrite un centre de jour, viennent des patients atteints de troubles psychiques.
Il faut vous faire à cette idée, l'hôpital psychiatrique de Lannemezan est presque un vrai village. Autrefois, c'était un asile. Mais sous la conduite de leurs médecins, les malades en ont fait un village. Autrefois, il y avait des sauts de loup, des fossés pour les empêcher de s'enfuir. Ils les ont comblés, et à côté, ils ont creusé un lac pour faire du canot. Dans un service voisin, un médecin apprenait à des malades à maîtriser leurs forces par le judo, leur révélant en même temps que l'on ne craignait pas l'usage qu'ils pourraient en faire.
Et le pied gauche va se placer à l'extérieur de la jambe gauche de l'adversaire, parallèle à lui.
Et moi, je trouve que c'est génial, ce système de battre. Il y a moins d'agressivité que dans les grands dans les grands bâtiments, mais c'est plus agréable. Il y a l'eau, c'est apaisant, comme il y a Aziz.
L'eau, ça a un rôle soignant, un peu, non ?
Ça repose.
Ça repose. Comme tous les villages, l'hôpital a sa fanfare, une harmonie de 75 exécutants. On commence par être tambour, quand on va mieux, on est trompette, puis corps, puis au bois.
Il n'y a pas de porte fermée, tout le monde peut circuler partout, il n'y a aucun bureau fermé. Les patients, tout un chacun peut aller dans le bureau administratif, à la photocopieuse. Le quotidien de cet endroit est co-inventé par les patients et les soignants.
La psychiatrie est une chose très complexe. Et la meilleure façon de l'aborder et de ne pas se tromper, c'est de le faire avec simplicité. Et nous avons pensé que le mieux, c'était de leur donner un milieu normal. Puisque c'est là qu'on voulait les amener, eh bien, on a essayé d'emblée à leur donner un milieu normal. Et on a veillé à ce que tout ici soit comme au dehors. Que le malade retrouve exactement à l'hôpital ce qu'il retrouverait dehors. Et je pense que leur plus grande souffrance, c'est de ne pas être comme les autres. Et cette souffrance est toujours là. Et alors, quand vous vous adressez à cette souffrance, quand vous essayez justement de l'apaiser en leur donnant la possibilité d'être comme les autres, on est tout étonné de constater qu'ils vous suivent, parfois même avec enthousiasme.
Donner des médicaments, des calmants, des anxiolytiques aux gens, c'est tout un ensemble. Soigner ici, ça veut dire d'essayer de renouer un lien, d'aider les patients à retrouver un lien avec le monde, au fond. Il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas de signe extérieur qui permet de distinguer clairement les soignants des patients. Et c'est très important.
Alors là, on a deux époques et un seul langage, deux espaces qui cherchent néanmoins à composer un peu autrement dans une dimension institutionnelle où le rapport patient et soignant, s'il est réagencé, il n'est pas supprimé. Et du coup, une question un peu que je lance en l'air à qui voudra bien répondre, vous êtes toutes et tous conviés, c'est est-ce que c'est imaginable une santé, un soin, on pourrait dire même une santé publique, où ce rapport soignant-soigné il serait dépassé ? Est-ce que ce serait possible une santé émancipée, hors du capitalisme thérapeutique dont on a parlé tout à l'heure ? Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Voilà, c'est un peu la question qu'on lance en l'air et qu'on invite tout le monde à... auquel on invite tout le monde à répondre, celles et ceux qui ont envie de le faire.
Je voudrais juste vous proposer quelques éléments, à mon sens, un peu à partir de l'endroit dans lequel j'ai été pendant 35 ans quand même, ces fameuses institutions qui nous surplombent, quoi. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait des choses qui soient en dehors de l'institution, qui fasse que l'institution elle est contrainte à se repenser elle-même, parce qu'elles sont là. Elles sont là et qu'on n'est pas encore arrivé à un stade où il est possible de penser leur abolition. Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs ? J'en sais rien. Bon, que ce serait des communs de soins ? Qu'est-ce que ce serait ? Bon, donc il faut que ces dehors-là qu'on a rendu présents, il faut les faire exister, il faut s'en rappeler. Il y a ce que vous faites à la NOUM, mais il y a les collectifs d'entendeurs de voix, mais il y a des groupes d'entraide mutuelle qui sont plus ou moins... engoncé dans ce que tu disais Antoine, il y a des tentatives de faire un boulot qu'ils appellent les Finlandais, ils appellent ça open dialogue, c'est-à-dire comment on travaille avec l'environnement des gens, on ne travaille pas avec des individus individualisés qu'on démunit de tout lien avec le monde dans lequel ils habitent. Il y a tout un tas de choses qui essayent un peu de foutre en l'air un peu ces paradigmes de l'individualisation psychopathologique. Et ça existe, et c'est en train de je ne dirais pas de proliférer, mais c'est en train de prendre la place d'une ancienne psychiatrie, malgré les chaos de la déliquescence un peu dystopique, très dystopique dans laquelle on est aujourd'hui, les attaques profondes que le régime de gouvernementalité que j'appelle libéral-fasciste, les Macron, les Milei en Argentine, etc., elles sont en train de nous imposer, quoi, cette sorte de destruction, de déliaison. Et tout ça, ça, on peut y lutter. Et je pense que là, on a eu ce soir un exemple avec ce que vous faites. Mais il y en a plein d'autres ailleurs, quoi. Il faut se les rappeler. Et à un moment donné, il faudra se dire, peut-être même, qu'il faudra être un peu volontariste pour créer des logiques un peu d'alliance, des logiques un peu de coalition, des trucs qu'on avait fait exister dans les années 70. Ça s'appelait les réseaux alternatifs de psychiatrie. Et ça comprenait aussi des collectifs, des patients autogérés. Et ça comprenait des gens qui faisaient des trucs dans les institutions. Et c'est engueulé entre eux, entre la psychothérapie institutionnelle française, qui était très instituante, et la désinstitutionnalisation italienne, il y avait vraiment des gros conflits, quoi. Voilà, quoi. Il faut refaire exister ça, et je pense qu'on le peut, quoi.
Vous êtes entre soignants, là, je crois.
Moi, je crois qu'on ne dépassera pas les relations asymétriques. Par contre, ce qu'on peut faire entre soignants et soignés, par contre, ce qu'on peut faire, c'est les prendre en compte, ne pas les nier et penser les contre-pouvoirs. Et notamment, abattre la figure du psychiatre. Ça, c'est essentiel en psychiatrie, c'est que le psychiatre, il va falloir le dégommer. Ce gars-là a trop de pouvoir, c'est juste pas possible. Et donc, il faut qu'on pense les contre-pouvoirs, les collectifs de soins, les collectifs d'usagers aussi, il faut qu'ils soient ils aient un réel pouvoir dans les institutions. Et j'ai tout un programme, voilà, achetez mon livre.
Il y a un psychiatre qui voulait en parler.
Ça s'appelle comment ton livre ?
Pas encore le titre.
Il
faut abattre le psychiatre.
En vrai,
il ne serait plus jamais psychiatre. Tu vas l'inviter à Gérard Roff.
Déjà fait. Je vais un petit peu être un petit peu plus méchante que les autres sur ce sujet. Je vais déjà rappeler un petit peu fait quand même qui est pour moi vraiment essentiel et voilà, pour moi faut quand même partir de là. C'est la base de la base. C'est la fondation de la fondation. Rappeler que les fous et les andis, j'arrive pas à parler des fous sans les andis, c'est un petit peu, désolé, c'est mon parcours, mais c'est que les fous comme les andis, et de toute façon, les fous sont de fait des andis, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler, même si dans des circonstances un peu particulières, sont des résultats et des volontés du système bourgeois capitaliste, occidental, colonialiste. C'est un fait qui est absolument nécessaire de rappeler, et dans le sens que si on détruit le capitalisme, je ne sais pas si aujourd'hui les connaissances biologiques ne nous le permettent pas, et je ne sais même pas si ce serait vraiment souhaitable de le faire, mais en tout cas, on ne sait pas. Je ne sais pas du tout si sans le système capitaliste, il y aurait quand même des handicapés, il y aurait quand même des fous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aurait quand même une bonne partie qui ne serait plus, parce que tous les racisés dont elle parlait, tous les handis dont je fais partie, tous les trans, toutes les personnes victimes du système mononucléaire familial qui sont quand même... C'est quand même un gros, gros vecteur de trauma et donc de troubles psychiatriques. Le fait de subir l'inceste, par exemple, il faut quand même dire les termes. C'est-à-dire que le cadre familial, le fait de subir le viol, voilà, toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui dans notre société, déjà en lutte pour juste les dénoncer, déjà... Accepter le fait qu'un violeur soit un criminel, ça a déjà compliqué. Donc, dans ce cadre-là, forcément, une personne qui a subi un viol, si elle n'est pas vraiment entourée par des personnes les plus énervées de sa génération, va juste être la folle et le valide. Si le violeur reste dans la société, il faut bien s'imaginer que la violée, elle se barre en général. Hein. C'est-à-dire que c'est pas vraiment compatible qu'il y ait les deux personnes ensemble dans la même pièce, ni dans le même groupe. Ni dans la même idéologie. Et voilà, du coup, déjà, ça c'est un petit peu la base. Après, il y a une deuxième idée qui est que globalement, bon, ça m'énerve un petit peu parce qu'on part sur les rhétoriques de développement personnel, mais quand même, une idée assez logique là-dedans, c'est que individualiser le soin, c'est pas si débile comme idée parce que prendre soin de soi, en fait, c'est un peu la base. Et si on prenait tous soin de nous, on n'aurait pas besoin d'avoir des lieux de soins. Je dis pas qu'on peut prendre soin de nous, hein. Je dis absolument pas que c'est possible, voilà, clairement. Mais pour autant, si une société ne nous exploite plus, si on peut ne pas travailler, si on peut ne plus subir de racisme, d'inceste, je ne sais quelle horreur, voilà. Et à côté de ça, si on est au courant qu'on peut se soigner nous-mêmes, y a quand même des fortes chances qu'on n'ait plus vraiment besoin de lieu de soins, et que même si, soit personnellement on n'est pas capable de soigner soi-même, Imaginons, je suis Andy jour 1, je ne suis plus Andy jour 2. C'est très très commun dans les milieux de folie et d'handicap, hein, c'est-à-dire l'alternance et la capacité, l'incapacité qui n'est pas constante mais seulement temporaire. Bah, les moments où je suis en capacité, bah, je vais pouvoir aider mon pote qui n'est pas en incapacité à ce moment-là. En capacité, du coup, je mélange Valédine mais fou, mais pour moi, on reste sur le même sujet. Et petit rappel aussi, quand même, parce que je vais un petit peu attaquer dans le vif du sujet, mais la folie a quand même une utilité. J'ai un petit peu parlé du productivisme. Je vais quand même mentionner la folie. Ce qu'a fait, voilà, qu'a fait la personne avec son livre, je ne me rappelle plus des noms, je suis vraiment désolé. Mais le fait que la folie a une énorme utilité politique, vraiment, il a parlé du fait que la folie, c'est l'endroit où on individualise les gens. Globalement, on individualise les problèmes de société et on les met sous le tapis en disant c'est pas un groupe, c'est une personne. Quand c'est un groupe, c'est un peu plus galère, on est obligé d'inventer le racisme. Désolé, je suis assez cynique, mais voilà. Et en tant qu'individualiser les problèmes de société, bon, on l'a fait pendant tout le long de notre histoire. Je sais pas si on a commencé, mais il y a une partie de l'histoire de la psychiatrie, c'est quand même lié au féminisme, hein, c'est quand même lié aux femmes du coup plus bourgeoises qu'on emprisonnait parce qu'elles étaient hystériques. Elles dérangeaient leur établi. On a fait ça pour les Noirs en Amérique ségrégationniste. Non, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est en Australie. En Australie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les indigènes qui continuaient, malgré l'hégémonie blanche qui commençait à s'installer, qui voulaient s'installer. Mais ils commençaient à avoir leur culture locale, à avoir leur petite locale, leur petite musique, leur petit vêtement traditionnel. Et c'était un peu relou. Et bah, vu que ces personnes-là étaient assez isolées, on a pu tout simplement les psychiatriser en disant bah, cette envie là que vous avez d'avoir des couleurs différentes de vêtements, des couleurs de vêtements différentes du reste de la population, ben on va dire que c'est une folie. Et voilà, on a fait ça globalement pour énormément de minorités. Et il n'est vraiment pas à exclure que aujourd'hui des groupes qu'on considère comme non-groupes justement, par exemple les victimes de la famille mononucléaire, demain deviennent des groupes politiques et au même titre que les racisés, que les féministes ou que les anti-validistes qui commencent à se former aujourd'hui. Et que bientôt, bah, les victimes d'inceste, on ne pourra peut-être plus les foutre en tôle. Et ça sera assez cool d'ailleurs. Voilà.
Oui, moi ce que je voudrais ajouter, c'est faire une petite critique par rapport à la phase qu'il y a eu là de pause et de pause et de, je sais pas comment dire, d'intermédiaire. Pardon, c'est bon comme ça? Du coup, c'était la projection, enfin, en gros, d'un film qui est sorti en 2022, qui s'appelle La Talente, 2023. Et donc, nous, on a pu critiquer justement cette vision-là de la psychiatrie, où en gros, l'idée, c'est de mettre des fous sur une péniche à boire des cafés et de dire, bah, vous voyez, ils mènent la vie comme des bourgeois. Et vous voyez, en fait, finalement, la santé communautaire, c'est ça. Du coup, bah, nous, on n'est pas du tout d'accord par rapport à ça. Après, je ne vais pas vous faire toutes les réflexions qu'on a pu avoir là-dessus, mais ce que je tiens à dire, et je ne reprendrai pas la parole après, c'est que nous, à Démocratie, on n'est pas du tout abolitionniste, dans le sens où en fait, on considère qu'être abolitionniste, c'est une manière de décharger d'une responsabilité citoyenne et civique, et que en fait, c'est une solution de facilité qui est très facile, parce que nous, en fait, on veut être sur le terrain, et on veut pas, on veut mettre l'ego de côté, voilà, parce que c'est important de mettre son ego de côté et de voilà d'agir et de venir à Démocratie. Merci.
Ouais, ça Démocratie.
Ouais, moi j'allais faire le lien. Joseph, tu disais qu'on faisait des trucs à la nous. En fait, c'est pas à la nous, c'est à Robespierre. Mais du coup, c'est intéressant de faire le lien. Parce que à la nous, il y a un programme de destruction du quartier, comme se passe dans pas mal de quartiers. Et moi, j'allais dire que ce qu'on peut faire, si c'est pas voilà, positif, c'est au moins essayer de faire attention aux ensembles des espaces qui sont en train d'être détruits par le capitalisme et l'urbanisation, et qui en fait détruisent des communautés de liens. Et c'est un programme qui se passe dans pas mal de cités depuis les années 2000, quoi, de sécurisation des quartiers, de destruction des logements. Enfin, du coup, je pense qu'il y a une attention à porter à tous ces espaces voilà, qui sont détruits et qui détruisent avec eux des ensembles de solidarité,
d'écosystèmes humains.
Voilà, merci Capu. Des façons de faire autrement, de faire autrement collectivement, de s'organiser. Si c'est pas à la marge du capitalisme, c'est en tout cas de faire, de perpétuer d'autres types de façons de s'organiser, quoi, d'organiser les liens familiaux, d'organiser les liens de voisinage, d'organiser les gardes, d'organiser l'attention à l'autre. Et il y a quelque chose qui se passe par la destruction des espaces, quoi, des territoires. Et qui, enfin, depuis les années 50, depuis l'ensemble des destructions des espaces ouvriers, fait advenir cet état de destruction et de délitement de l'ensemble des liens communautaires et qui participe des difficultés psychiques et des difficultés de faire attention à l'autre, quoi.
On dit souvent, nous, que on est les personnes qui enfin l'émergence de troubles, elle vient des violences que subit le corps social, les traumatismes du corps social, et que nous, on en est un peu l'expression, quoi. Et donc, évidemment, il va falloir soigner ce corps social. La question de dépasser le capitalisme, d'accord, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ben, nous, c'est là où on s'oppose un peu à l'abolitionnisme, c'est-à-dire on doit nous se réapproprier la question des soins et de soins émancipateurs. Mais là, je redis ce qu'a dit Aïcha.
Okay, wow. Merci. J'ai deux questions assez simples. La première, j'ai pas très bien compris comment vous étiez financé à Démocratie ou si vous l'étiez.
Et
belle question.
Et du coup, enfin, pour les, je sais pas comment. Enfin, il y a eu un moment où il a été question de différence de statut. Un peu, je sais pas s'il y a des salariés. Enfin, voilà. Et donc, du coup, s'il y a des soignants qui ont quitté leur travail, soignants-soignantes, pour s'engager à Démocratie, comment ils vivent et les autres. Enfin, bref, comment ça fonctionne concrètement pour que les gens puissent malgré tout vivre au-delà de soigner, première chose. Et deuxième chose, tu as parlé tout à l'heure un peu des hommes racisés, classisés à l'hôpital, et justement, une grande question que je me pose, là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui œuvrent dans votre collectif qui sont des femmes. Et je voulais savoir si vous touchiez, autant dans les usagers que dans les personnes qui donnaient du soin. Voilà, je voulais savoir si vous touchiez des hommes.
Oui, là, c'est un peu une coïncidence, mais d'habitude, on est plus ou moins à part égal.
Il y a plus de femmes.
Plus de femmes ?
Ouais,
il y a plus de nanas, apparemment. Mais c'est pas... Enfin, moi, étant prof de yoga, par exemple, dans les cours de yoga, il y a presque que des femmes, ça c'est sûr. À Démocratie, il y a quand même beaucoup de mecs. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas forcément binaires. Comment ? Ouais. On va revenir avec des statistiques là-dessus très prochainement. Et après, sur la question de se professionnaliser, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et des financements, on n'en a pas. Même si on a eu un généreux mécène il y a très peu de temps. Qu'on remercie encore. Mais c'est une très bonne question. Parce que justement, le collectif Le Hangar avec lequel on bosse, qui existe depuis 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, je regarde Sophia parce que voilà, à peu près. Mais quand on est dans ces pratiques qui partent vraiment du terrain et où on bricole au jour le jour, on n'a pas en fait le savoir-faire de tout ce qui est institutionnel, d'aller chercher des subventions, etc., etc. Et par exemple, Le Hangar commence là à avoir des services civiques. Maintenant, il y a 4 services civiques au Hangar. qu'on utilise d'ailleurs. En fait, on utilise tous les outils du hangar et donc on en bénéficie. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir s'inspirer de ce modèle-là pour nous, à notre tour, effectivement, développer un modèle qui soit viable, qui puisse éventuellement... Alors, je ne sais pas si on peut dire créer de l'emploi quand on a des services civiques, mais en tout cas, apporter une rémunération à des personnes... Enfin, là, en l'occurrence... je crois que c'est pas un secret puisque ça a été dit publiquement dans une réunion, mais il y a un des services civiques du hangar qui, s'il n'était pas en service civique là, serait peut-être en détention à la fin du mois. Et donc, en fait, comment on s'entraide les uns les autres, comment on trouve chacun une fonction et comment, même si c'est des petits revenus, effectivement, on arrive à structurer tout ça. Et à avoir un modèle qui soit viable. Donc, que ça puisse tenir. Et après, il y a quand même quelque chose de qui est une... Alors, là-dessus, je pense qu'on est partagé, que ce soit les équipes du hangar ou les équipes de démocratie, être partagé entre ce truc d'être complètement hors système, parce que le bâtiment dans lequel on est, c'est un bâtiment... Donc, on utilise le terme réquisitionné, c'est un squat. Le fait d'être totalement hors système, ça nous donne une très, très grande liberté, une très, très grande marge de manœuvre. En même temps, le fait qu'il y ait plein de collectifs d'artistes et d'individus à l'œuvre, ça fait qu'il y a une synergie. Enfin, on dit on fait un café associatif. Paf, claquement de doigts, il y a des designers qui sortent des beaux-arts, qui nous créent un grand meuble. Il y a un électricien qui vient, qui tire des câbles. Il y a un plombier qui arrive et finalement, on a des éviers. Un tel a récupéré des tasses. L'autre a eu un héritage et paf, il y a de l'argent qui arrive. Bon, on va acheter un super percolateur. On ouvre une salle de yoga, on a des tapis, enfin... en un claquement de doigts, en fait, on arrive... Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun argent en circulation, en fait. On arrive en mutualisant les moyens. Ils ne sont pas seulement mutualisés, ils sont démultipliés, ils sont puissants. Alors, je ne sais pas comment on dit en termes mathématiques, mais... Enfin, l'addition, elle ne fait pas la somme de ça, elle fait beaucoup, beaucoup plus, en fait. Donc là, pour l'instant, on est dans ce fonctionnement-là. Et peut-être que ça touchera ses limites à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il y a certaines et certains parmi nous qui sont partisans plutôt de se structurer, d'avoir des aides, des institutions. Là, on travaille d'ailleurs avec le CLSM, donc le Conseil local de santé mentale, avec un groupe de travail pour les personnes concernées. Et l'idée, pour l'instant, c'est de les utiliser pour nous, avoir leurs moyens. Et non pas que eux nous utilisent à leur fin politique, mais tout ça, ça se construit petit à petit et morceau par morceau.
Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, Capucine, parce que ça me fait penser à un podcast que j'ai entendu où dedans est interrogé le fondateur de un des fondateurs de l'association communautaire de santé et bien-être qui se trouve à Saint-Denis, au Framboisin, et qui est une des pionnières, si j'ai bien compris, de création de lieux, en fait, qui a créé un centre qui existe encore et qui est hyper important pour le quartier, qui est un quartier populaire, extrêmement précarisé et encore à l'heure actuelle mis de côté par la mairie de Saint-Denis, le nouveau maire, enfin bref. Et dans sa prise de parole, il disait aussi ça sur la santé communautaire, c'est-à-dire que lui, il disait « Moi, je soigne mes patients par la relation que j'ai avec d'autres patients. » Parce qu'il y avait, je ne sais pas, ce monsieur ou cette dame, j'en sais rien, qui venait régulièrement avec des problèmes de ventre dont je m'étais rendu compte que c'était des symptômes de stress. Parce que la dernière fois où il est venu, je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en gros, il expliquait que sa voiture était tombée en panne, il n'avait plus d'argent pour la réparer, enfin bref, et que du coup, il ne pouvait plus aller au travail, du coup, il allait se faire virer, du coup, le loyer, les enfants, enfin bon, voilà. Et en fait, le médecin disait, c'est aussi ça la santé communautaire, c'est que moi, là, pour soigner son mal de ventre, j'ai appelé un autre patient qui se trouve être le mécanicien de la carrosserie en bas, quoi. Et il lui a expliqué, il lui a dit, oui, est-ce que tu pourrais pas lui filer un coup de main? Bref, ils ont réparé la voiture, le monsieur n'avait plus mal au ventre.
C'est exactement ça.
Mais je trouvais ça intéressant comme manière de le dire, et j'ai l'impression que ce que tu dis, ça rejoint aussi ça, c'est-à-dire que la santé communautaire et créer de la communauté, c'est aussi ça que ça fait. C'est que la somme, elle est beaucoup plus grande que... l'addition, en effet...
Et puis, c'est voilà. Se sortir de l'impuissance, en fait. Je pense que c'est ce qu'on fait collectivement. Là, c'est se sortir de l'impuissance et juste des constats d'oppression. À un moment donné, on est juste étouffé. Et, euh, et, Et quand on discute, même avec des potes qui sont politisés et qui ont envie que ça se passe bien, ouais, mais tout ça, c'est utopique et tout, mais viens au hangar, en fait, parce que nous, l'utopie, tous les jours, on la vit et ça avance, et on a des résultats qui sont inespérés.
À ces propos, j'étais à Buenos Aires il n'y a pas longtemps, j'ai aucun rapport avec l'Argentine, mais enfin bon, je parle les Castillans, quoi. Bon, j'étais là-bas et puis bon, bah, voilà, bon, je voyais des vieux révolutionnaires qui étaient en tôle en 55, ensuite avec la dictature de Videla, tout ça, bon, des vieux quoi. Mais je rencontrais des jeunes qui interviennent dans ce qu'on appelle là-bas las villas. Las villas, c'est les favelas, quoi, un peu, disons. Bon. Et il y a deux jeunes là qui interviennent et qui ont fait, bon, sont sociologues, bon, ouais, c'est pas une tare absolue hein, d'être sociologue, enfin, j'en sais rien, bon, bref. Et donc, ils ont écrit un petit bouquin qui s'appelle Implosion. Et ils disent un truc, bon, ils disent plein de choses qui sont assez chouettes, quoi. Donc, la question des cartographies, comment on partage le territoire qu'on vit, quoi. Et on les partage, on les vivant, etc. Mais il y a le truc qui caractérise ces milieux d'implosion, c'est le cansancio, la fatigue intégrale, quoi. T'es acculé à être fatigué tout le temps. Et puis l'hypermobilisation. T'es acculé aussi à être tout le temps en train de t'agiter pour trouver un peu de thunes parce que t'as des crédits, que cela, quoi. Donc, le couple infernal. Hypermobilisation, c'est un truc très libéral, quoi. Il fait tout le temps, il faut tout le temps te bouger pour essayer d'exister, quoi. Et puis la fatigue, la prostration, quoi. Il y en a un peu dans ces trucs-là. Et le seul truc qui fait que, à mon sens, qu'on peut s'en sortir de cette merde-là, c'est lorsqu'on a un peu des contenants, quoi. Des contenants dans lesquels il y a d'autres gens qui se disent, pose-toi. On va causer. Moi, je suis lié aussi à d'autres choses. Et ce que tu racontes, hein, sur les gars là qui est mécano et qui peut donner un coup de main, voilà, moi aujourd'hui en termes de soins, je vois pas mieux que ce genre de démarche, des cartographies investies, vivantes, qu'on fait proliférer, qu'on fait exister, qu'on les met en partage, etc. Après, les institutions sont là. Bah, tu disais, je suis pas abolitionniste, je te comprends, moi aussi je le suis idéalement, mais je le suis pas concrètement, parce qu'on va pas boucler, on va pas fermer toutes ces institutions là dont trop des survies dépendent. Comme ça. Mais il faut vraiment sacrément les bousculer, quoi. Et on pourra les bousculer avec des trucs comme ça. Avec des trucs qui font que les institutions sont contraintes. Mais même, on peut leur faire rendre service aux institutions en leur disant, mais vous savez, vous n'êtes pas tout puissant, vous êtes aussi, vous, complètement cassé, vous êtes épuisé, vous êtes hyper mobilisé, mais comme tout le monde, quoi. Mais il y a des choses autres qui existent et ils ne sont pas forcément hostiles. Parce que moi, je ne suis pas hostile à une infirmière, un infirmier qui bosse dans un service hospitalier, qui fait ce qu'il peut, etc. etc. Je ne suis pas un mouvement immédiat, automatique d'hostilité. Mais l'institution, oui, ça peut réveiller de l'hostilité. Donc là, il y a quelque chose à bricoler. Et là, ce qu'on met un peu en partage, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut devenir, quoi. Mais c'est, bon, voilà, quoi. C'est un peu des choses comme ça qu'on peut partager. Et puis après, juste, je finis. C'est la question que tu posais sur comment ça tient, comment on transmet, comment on fait durer, etc. Donc les statuts bâtards, un peu salariés, des machins, comment on mutualise, comment on tire des pognons, des gens qui en ont, tout ça, bon. Voilà, quoi. Bon, tout ça, c'est vrai que c'est des questions à se poser, qu'on fait tenir un truc, quoi. Parce que c'est vraiment dommage que les choses ne tiennent pas. On voit trop d'expériences éphémères qui implosent par des embrouilles, par des conflits, par des trucs, tout ça. Donc, comment on fait pour que les choses tiennent quand on n'a pas une institution carrée qui dit, voilà, toi, tu es à ta place, donc ça tient comme ça, parce que tu es juste à ta place. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu dégages, quoi. Bon, là, c'est encore une autre histoire, quoi.
Je me permets de rajouter un petit truc, peut-être pas forcément pour tout le public, peut-être qu'il y a un public vraiment concerné et vraiment habitué de nos milieux militants qui va pas du tout avoir d'informations avec ça, mais je voudrais quand même rappeler un truc, c'est que l'antipsychiatrie, elle est aussi vieille que l'anarchisme et que absolument tous les lieux autonomes de l'histoire ont été des lieux antipsychiatriques de soins communautaires. Juste naturellement par leur volonté de pallier, de ne pas suivre une ou plusieurs oppressions. Et c'est important aussi de se rappeler qu'on n'est pas si nouveau que ça, en fait. En fait, la seule chose à faire, c'est de faire en sorte que ça soit adapté vraiment pour les folles. En tout cas, après, voilà, dans cette solution-là, en tout cas, il y a aussi cette solution-là de juste se servir des choses qui sont existantes. Pas forcément servir d'un point de vue utilitariste, mais juste leur donner une autre utilité que celle qu'ils n'avaient juste auparavant et qui est une utilité dont ils seraient très contents de prendre, juste en les informant, en leur disant, bah voilà, vous faites déjà ça. Dans les faits, vous êtes déjà quasiment inclusif. Il faudrait juste éviter d'utiliser certains termes et parler de certains sujets, mais en soi, voilà. Et un petit autre sujet aussi dont je voudrais parler quand même, si on parle de galaxie des mondes autonomes, du coup, voilà, comme je vous dis, galaxie des mondes autonomes, je pense depuis, bah, je pense la Révolution espagnole, je pense le Chiapas, je pense le Ruyava, je pense vraiment des sujets, même la Commune de Paris en soi. Et il y a un truc intéressant, c'est de se dire que la continuité, la résilience, elle n'est pas forcément indispensable, parce que s'il y a bien un truc qui est commun à tous les activistes, c'est qu'un activiste, quand il perd son lieu, bah, il en recrée un nouveau. Et du coup, vouloir avoir un truc qui va absolument tenir dans le temps avec des financements, des moyens de survivre, des moyens de subsistance, bah, ça peut être, c'est carrément cool si ça marche, si ça le fait, mais c'est pas obligatoire que ça soit un objectif en soi. Voilà.
Chers camarades, ça fait bientôt une heure et demie qu'on parle et c'est le moment de vous quitter. On remercie chaleureusement Radio Parleur et Pierre-Louis pour l'animation de cette émission. Un grand merci à Victor Taran pour la réalisation et l'écriture. Et puis, merci à Giuseppe, Fatia, Capucine, Biquette, Sophia, Antoine et les autres membres de Démocratie présents et présentes d'avoir accepté l'invitation. Et à vous toutes et tous ici présentes d'avoir assisté et participé à cette émission. Salut à toi qui nous écoute encore. On se retrouve très vite dans la rue, en manif ou derrière un micro. On vous laisse avec Psychanalyse de Soumeya. Ciao.
Si je les écoute, je finis en psychiatrie. Besoin de personne, je fais ma psychanalyse. Surmonter des épreuves, mais à quel prix? Pourquoi je fais du rap? J'irais mieux si je prie. Et si j'ai pris 10 ans dans la tête, c'est que j'ai pas grandi comme tous mes collègues. Alors j'écris du fond de ma haine, comme si je pouvais apaiser ma colère. Une souffrance, c'est au quotidien. J'ai des séquelles à vie, je vais pas le nier. Je me suis souvent dit ça ira mieux demain. Mais j'attends ce demain depuis des années, je suis désarmé. Je peux pas mettre de mots sur ma douleur. Recherche mon bourreau dans un placard. Je dormais dehors, j'avais moins peur. Couteau sous l'oreiller, j'avais même pas là. Je m'endormais sans savoir si demain je serais là. Bref, que des grêle, pas de soleil, y'aura que des tempêtes. Et si je crève, je serai heureuse d'avoir fait de ma souffrance des thèmes. Ils ont pas cru en moi, ils m'ont pas signé. T'as rien de féminin qui va t'écouter. C'est pas moi qui ai travesti le rap français. Alors venir me dire ça, c'est culotté. Je me remets en question pour trouver des réponses. Lui-même a fait mal, c'est pas une fiction. Les peines j'additionne, tombe dans l'addiction. Mais comment j'ai fait pour perdre la raison? Je prétends rien, mais j'ai beaucoup vu. Je réponds pas à la commande, je vais changer le menu. Système corrompu, je parle des injustices. Estrosi au pouvoir, putain, ça me tue. Nouvelle bactérie, c'est la fin des temps. Y'a du Covid dans nos cœurs depuis longtemps. Et la pollution, depuis des années, ils ont réussi à inverser les pôles. Douleur se banalise quand je fais ma psychanalyse. 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 La misère a eu raison de nous. Depuis on nous appelle les voyous. Voyons, les vrais mafieux c'est ceux qui sont placés au-dessus de nous. C'est l'enfer ou le paradis. Les petits vendent du cannabis, cachent la recette dans le jean. Y'a la police qui arrive, c'est le hlam ou bien le jean. Danseur travaille dur à H&M. Mérite la carrière de Jennifer Lopez. La misère a eu raison de nous. Depuis on nous appelle les voyous. Voyons, les vrais mafieux c'est ceux qui sont placés au-dessus de nous. C'est l'enfer ou le paradis. Les petits vendent du cannabis, cachent la recette dans le jean. Y'a la police qui arrive, c'est le hlam ou bien le jean. Nos soeurs travaillent dur à H&M. Développe ta haine dans des HLM. Enveloppe ton cœur, remplis-le de rêves. Y'avait des préjugés avant les gestes barrières. Douleur se banalise quand je fais ma psychanalyse. Douleur se banalise quand je fais ma psychanalyse. Douleur se banalise quand je fais ma psychanalyse. Douleur se banalise quand je fais ma psychanalyse.